Perrault est le nom du chien d'intervention Togo qui est au service des ambulanciers et ambulancières à Montérégie. C'est l'un des chiens de l'équipe Togo qui a été mis en place par Noémie Labérois, qui a donc fondé les chiens Togo et qui en est la directrice générale. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Quelle histoire différente et sympathique que ce projet des chiens Togo.
Ben, c'est bien gentil. C'est important pour moi, par contre, peut-être de nuancer que
oui.
Ce n'est plus juste Noémie Labérois. Et depuis longtemps, c'est une équipe
oui.
des chiens Togo, une équipe multidisciplinaire. Donc, je voudrais pas m'auto-proclamer tout ce mérite.
On aura l'intention, on a l'intention, mais on aura l'occasion de parler des différentes personnes qui œuvrent dans votre équipe, les entraîneurs canins intervenants psychosociaux et tous les bénévoles aussi qui sont tellement utiles à votre mission.
Super.
Alors, Noémie, j'ai comme compris que les chiens Togo, ça demeure quand même, c'est comme un peu né d'une certaine manière d'un rêve d'enfance que vous aviez.
Bien, en fait, moi, j'étais une enfant qui rêvait d'avoir un chien, effectivement,
oui.
et qui a grandi avec une maman très allergique à absolument tous les animaux. Donc, j'avais des poissons rouges auxquels je m'attachais fortement. Donc, dans ce sens-là, oui, tout à fait, c'est lié.
Et donc, ce chien-là, maintenant, il est multiplié en plus de 60. Vous êtes dit, je ne peux pas avoir de chien quand je suis petite, mais finalement, quand vous êtes maintenant rendue grande, c'est de nombreux chiens avec lesquels vous collaborez pour faire le bien dans la société.
Absolument, c'est ma passion et puis c'est provenu, dans le fond, à la fin de mon diplôme en psychoéducation. C'est vraiment là, une demande qui m'avait été formulée dans le cadre de mon travail. Je travaillais pour une compagnie d'éducation canine, parce que vous savez, l'éducation canine et l'intervention comportementale chez l'humain, qui était mon diplôme dans lequel j'étais spécialisée, bien, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein? Des fois, ça choque un peu, mais l'être humain est quand même un animal.
L'animal
et
social.
Le chien a l'avantage d'être dans le moment présent et toujours volontaire au changement. Et puis, on avait souvent des demandes là, par rapport aux chiens d'assistance, notamment une jeune fille qui est allée chercher un chien en refuge et qui nous avait approché, qui nous avait dit « ben, j'aimerais ça que mon chien devienne un chien d'assistance ». Et moi, ça m'avait énormément parlé et je n'avais absolument aucune notion à cette époque-là, ça va faire plus que 10 ans, là, par rapport aux chiens d'assistance, aux lois, comment ça fonctionne. Je lui ai dit « écoute, ça m'intéresse beaucoup ». Bénévolement. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis passionnée, je suis vraiment exagérément passionnée, il faut le dire.
Je pense
Donc,
que c'est le trait commun de tous nos héros anonymes qu'on reçoit.
Je suis vraiment devenue là, en quête, là, en mission pour savoir c'est quoi, comment ça fonctionne, c'est quoi les lois. Et j'avais des préjugés énormes à l'époque envers cette idée-là complètement folle de prendre un chien qui provenait de refuge pour faire un chien d'assistance. Bon, elle allait à l'université à l'UQAM. Je me disais, mon Dieu, pauvre fille, là, est allée chercher un chien tout croche, brisé, ça ne fonctionnera pas.
Votre préjugé était la provenance du chien, c'est ça? Le fait qu'il provenait d'un refuge?
Absolument, je trouvais ça tout à fait farfelu. J'avais jamais entendu parler qu'un chien de refuge pouvait avoir le profil pour être chien d'assistance. Donc, mon espoir était vraiment très, très faible. Et je lui avais tout nommé ça. Et à ma grande surprise, bien, dans ma formation, moi, j'ai été appelée à construire des questionnaires d'évaluation comportementaux pour les enfants, en fait, pour les humains. Alors, ça a été quand même relativement facile de transposer ça chez le chien et de pouvoir, dans le fond, vérifier plusieurs critères au niveau de la sociabilité qui permettaient de garantir la sécurité du public. Parce que pour moi, la première chose, c'était ça. C'était de savoir, bon, mais si tu te promènes avec ce chien de refuge-là dans l'UQAM ou dans le métro, est-ce que les enfants, le public est en sécurité? Et j'avais un préjugé, comme je l'ai dit, défavorable. Je me disais, pas sûr. Et à ma grande surprise, ben, ce chien-là, Bucky, était absolument adorable, pro-sociable, calme, complètement confortable en présence d'étrangers, d'enfants, d'adultes, etc. Et s'est révélé être, en quelque sorte, un des premiers chiens Togo, finalement. Et par le biais de mes recherches, ça, c'est un chien d'assistance physique. Mais j'ai vu que aux États-Unis, il existait déjà des chiens d'assistance psychologique. Et là, ça me parlait vraiment beaucoup parce que c'était mon domaine d'étude.
Oui.
Et c'est de là qu'est née l'idée, dans le fond, des chiens Togo.
Et curiosité comme ça, le nom Togo, ça vient d'où?
Mais non, Togo, ça vient d'une erreur.
C'est ah, souvent, les ah la vie, c'est souvent ça, oui.
Voilà. En premier, je cherchais un chien héros dans l'histoire des humains et j'étais tombée sur l'histoire de Balto, qui est un chien qui, dans le Grand Nord, est un chien de traîneau. Et il y a eu une pénurie d'un certain médicament, là. Ça, c'est une vraie histoire, là, en Alaska. Et dans le fond, il y avait une grosse tempête. On peut imaginer en Alaska, les tempêtes sont assez démesurées, là. Et c'était pas possible de faire circuler par voiture ou même par avion ce médicament-là. Et ce qui a été organisé, dans le fond, c'est un relais de mushers, donc de chiens de traîneau. Mm. Et Balto est le chien de tête qui est arrivé à la fin du relais. Bon, ça a bien fini. Les médicaments ont pu être délivrés. Plein de personnes ont été sauvées, des enfants notamment. Et là, ben, je me trouvais très originale d'avoir ce chien-là. Et rapidement, après avoir commencé à fonder les chiens Balto à l'époque, ben, j'ai reçu des appels comme quoi il y avait confusion parce qu'il y avait d'autres chiens Balto. Mm. Donc, j'étais pas originale avec mon nom. Et je suis retournée dans l'histoire de Balto pour apprendre, pour réaliser que, dans le fond, un des héros oubliés de cette histoire-là, c'est qu'il y a un des mushers qui est arrivé au relais pour passer le médicament à un autre musher avec ses chiens de traîneau, mais il n'était pas là. Mm. Donc, ce musher-là avec ses chiens ont dû parcourir le double de la distance. Et le chien de tête de ce traîneau-là, c'était Togo. Mm. Mais Togo, comme il n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, ben, il n'a pas reçu toute la gloire. C'est un peu comme quand on essaye d'ouvrir un pot de pickle, là, puis qu'on tire très, très, très fort, mais finalement, quelqu'un d'autre arrive, ouvre le pot et a tout le mérite d'être fort. Bon, fait que là, moi, je trouvais qu'il était temps qu'on rende gloire à Togo. Et je ne dois pas être la seule parce que quelques années plus tard, Disney a fait un film qui s'appelle Togo et qui est sur ce chien-là qui était dans l'ombre. Donc, voilà.
Ben voyez-vous, on a d'une certaine manière une mission en commun de ramener des gens, on dit à l'émission Les Héros Anonymes, de faire en sorte qu'on vous connaisse davantage. Donc, c'est un peu ce que vous faites avec Togo.
C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement. Et oui, Togo est un héros anonyme, tout à fait.
On va parler tout à l'heure, justement, de cette transformation-là qui est faite entre les chiens de refuge qui deviennent des chiens d'assistance. Mais d'abord, je veux comprendre bien, quand on parle de chiens d'assistance, de quoi on parle? Surtout que vous avez choisi pour votre organisme, pardon, de vous concentrer sur les métiers d'urgence. Comment est venu le choix de cette clientèle?
Bon, ben là, il y a plusieurs questions dans votre question. J'ai essayé de pas m'éparpiller. D'abord, c'est important au niveau du mot chien d'assistance. Ben, il y a clairement confusion. Parce que, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Spiro avec la CETAM, Spiro n'est pas un chien d'assistance. Spiro est un chien d'intervention. Exactement. Un chien d'assistance, c'est un, puis on en a chez les chiens Togo. On a nos chiens Togo d'assistance psychologique. C'est un chien qui est attitré à un seul individu qui a une condition qui justifie la présence de l'animal à ses côtés, dans les endroits publics notamment, et sans qui le chien, si le chien n'était pas là, la personne ne pourrait pas être seule dans les endroits publics de manière autonome. Donc ça, c'est un chien d'assistance. Un chien comme Spiro, qui est pour la CETAM, qui est un chien Togo d'intervention, la différence, c'est que ce qu'on vise avec les chiens d'intervention, c'est la prévention d'un trouble. Donc le trouble psychologique n'est pas déjà présent. Là, dans ce cas-ci, on parle évidemment du potentiel trouble du stress post-traumatique qui, dans les métiers d'urgence, les employés sont évidemment énormément plus à risque. Là, on parle de, au cours de la vie d'un individu, là, 1 à 3 événements au potentiel traumatique vont être rencontrés, alors que dans leur carrière, les policiers, les paramédics, on parle de 450 et plus.
Wow, donc, c'est vraiment une grosse différence. Et ce n'est pas si ça arrive, c'est quand et combien de fois.
Absolument. Mm. Et comment ensuite on vit ça? Et c'est ça l'impact du chien d'intervention dans une unité, au-delà bon, d'être agréable évidemment pour l'environnement, de diminuer la tension au sein de l'établissement. C'est sûr qu'il y a tous ces avantages-là du chien au niveau du climat. Mais au-delà de ça, ce qu'on espère, c'est que l'employé des métiers d'urgence, disons, on va prendre par exemple un paramédic qui a vécu une situation absolument atroce, au potentiel traumatique, qui s'assoit en débriefing avec un intervenant psychosocial, hein, parce que le chien n'est pas magique par lui-même. Ça prend aussi quelqu'un de formé dans le domaine. Mais ce qu'on fait comme hypothèse, c'est que on ne sait pas pourquoi deux personnes exposées à la même situation vont pas nécessairement tous les deux développer un trouble du stress post-traumatique, mais on sait qu'au niveau d'un facteur de protection important, c'est le fait de pouvoir en parler, mm-hmm. de pouvoir verbaliser ce qui a été vécu. Et c'est là qu'on souhaite, dans le fond, que Spéro, par exemple, ou nos autres chiens taureaux d'intervention soient aidants et facilitants. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que peut-être que dans la pièce de debriefing, il y a un paramédic qui n'aurait pas parlé, qui n'aurait pas été capable de prendre la parole sur ce qu'il a vu, mais parce que le chien est présent, par sa présence rassurante, puis parce que aussi on va entraîner le chien à détecter certains signes puis agir d'une certaine façon, bien, cette personne-là a pu parler et c'est ce qui aurait prévenu le développement potentiel d'un trouble post-traumatique.
Donc, le chien aide à ouvrir la discussion.
C'est l'hypothèse qu'on fait, c'est l'espoir qu'on a, et dans certains cas, ça peut être le cas. Mais moi, de par ma formation, je trouve ça important de toujours bien préciser que le chien n'est pas magique et le chien n'est pas indiqué pour tout le monde. Mm-hmm. Et ce n'est pas n'importe quel chien qui est aidant. Donc, je trouverais ça risqué. Quelqu'un qui entendrait l'émission qui dirait « Oh mon Dieu, on va aller chercher un chien, puis on va le mettre là, on va le tenir avec nous, puis on n'aura pas de stress post-traumatique dans notre établissement », mais c'est un gros danger, là. Mm-hmm. Ça prend un chien avec un certain profil. Ça prend aussi des intervenants psychosociaux qualifiés. Et pour certaines personnes, il y a des gens qui ont peur des chiens.
Oui.
Ça ne serait pas aidant là, d'avoir un chien dans la pièce. Donc, il faut faire attention. Je tiens toujours à le préciser quand même.
Oui, bien c'est ça. Ça prend un encadrement vraiment de gens qui connaissent autant la nature humaine que la nature des chiens. Et c'est votre cas. Et je vous propose, Noémie, de prendre une courte pause et on parlera du profil des chiens tout de suite après.
Parfait.
Écoutez les héros anonymes avec Chantal Doré au micro en entrevue avec la fondatrice et directrice générale de Les Chiens Togo, Noémie Labbé-Roy. Noémie, on a parlé un petit peu du profil des chiens et vous nous disiez d'entrée de jeu que vous aviez peut-être certaines appréhensions par rapport aux chiens de refuge et avec tout le travail que vous avez fait, vous avez été en mesure d'établir certains critères qui font que certains chiens peuvent devenir de bons chiens d'assistance. Donc, comment on fait pour les identifier?
Bien, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que les chiens qui ont le profil pour devenir chiens d'assistance ou chiens d'intervention sont rares. Mm. Et ça, c'est important parce que c'est un projet dangereux d'aller chercher un chiot oui. ou même un chien quelconque dans un refuge et penser que ça va devenir notre chien d'assistance. Moi, d'expérience, avec 10 ans chez les chiens Togo puis des centaines de chiens d'évalués, je pourrais vous dire que moins de 2% des chiens ont le profil recherché. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, pour ce qui est de notre fonctionnement chez Togo, bien, on a 35 refuges partenaires à travers la province et on a une armée de bénévoles qu'on a formés pour évaluer d'abord une première évaluation dans le refuge, pour distinguer là, quel chien semble avoir le profil. Mais évidemment que cette première évaluation est loin d'être complète pour avoir le profil d'un chien. Donc ensuite, on sort le chien de ce refuge-là et il est placé pendant plusieurs semaines chez un de nos bénévoles et il est en évaluation constante. Cette évaluation-là est réalisée par étapes, par protocole et doit être filmée. Parce que une fois qu'une personne a un chien chez lui, elle n'est plus du tout objective. Oui. C'est normal.
Et on ne veut pas être dans des perceptions. Vous devez vraiment évaluer selon un comportement que vous pouvez observer.
Absolument. Alors, on ne peut pas dire là, le chien, c'est parce que. Mm-hmm. On s'en fout complètement, c'est parce qu'on observe des comportements liés à quelque chose là, c'est très, très scientifique comme méthode. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Dans le fond, c'est premièrement un chien avec un niveau d'adaptation, des capacités d'adaptation complètement hors normes. Mm. C'est-à-dire que le fait d'avoir été dans un refuge, c'est quand même un certain traumatisme d'avoir été abandonné. Et là, le chien, ben, on lui donne une chance de se faire des repères. Évidemment qu'on ne commence pas l'évaluation jour 1. Là, on laisse le chien arriver chez le bénévole. Exactement. Mais quand même rapidement, le chien doit présenter là, un niveau d'anxiété très faible, sans avoir ses repères, sans avoir sa petite routine. Autrement dit, le chien n'est pas un paquet de troubles. Parce que dans sa vie de chien d'assistance, c'est ce qu'il va devoir faire constamment. C'est-à-dire qu'il va se promener à l'épicerie, ensuite il va aller, exemple, à l'aréna ou pour une partie de hockey de l'enfant du policier qui l'accompagne, etc. Et si à chaque fois son monde s'écroule, il ne sera pas heureux. Et ça, c'est un critère important pour les chiens Togo. Dans notre évaluation et dans notre entraînement, on a une énorme éthique de l'animal. Donc oui, le bien-être de l'humain est évidemment très, très important, mais le bien-être du chien aussi.
Et bon, on peut penser au départ que justement qu'un chien abandonné, puis là, il faudrait clarifier ce qu'on veut dire par abandon, peut lui emmener du stress à la base. Donc, puis on s'entend qu'un chien anxieux, il ne peut pas être aidant. Mais là, ce que je comprends, comme tout individu, il y a des gens qui vivent des gros traumatismes dans la vie et qui ont une capacité de résilience extraordinaire. Donc, c'est la même chose chez les chiens.
Absolument. J'aime beaucoup votre paradoxe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a grandi avec une situation qui a eu certains défis de vie qui peuvent effectivement représenter un grand stress qu'à l'âge adulte, on a nécessairement un trouble d'anxiété généralisé ou qu'on fonctionne pas du tout au niveau de nos capacités d'adaptation. C'est la même chose chez les chiens. Reste que je le redis, c'est quand même rare et une exception. Mm-hmm.
Puis on peut peut-être penser aussi que, bon, lorsqu'on décide d'adopter un chien, on doit faire une adoption responsable et le fait qu'un chien, finalement, aboutisse en refuge, est-ce que ça peut parler déjà du type de, peut-être, d'adoption ou de personnes qui n'ont pas nécessairement vu à quel point c'était une responsabilité importante et une grande décision? Ça doit parler un petit peu du maître qui le confie en refuge?
Il y a de ça, mais il y a aussi certaines raisons tout à fait légitimes. C'est sûr que là, en 10 ans, j'ai vu toutes sortes d'atrocités, là, de raisons d'abandon, de saisie aussi du MAPAC parce que les animaux étaient dans des conditions horribles, oui. Mais il y a aussi la situation, exemple, une personne seule qui se blesse, qui se fait hospitaliser, qui progresse dans l'Alzheimer graduellement, qui doit être placée. Ben, son chien, qu'est-ce qu'on en fait de ce chien-là? Ben, parfois, il se retrouve en refuge. Et c'était pas nécessairement un abandon là, qu'on imagine là, méchante, là, si on peut dire le terme, là, que le chien est attaché là, sur le bord du refuge puis par des gens là, qui ont mal évalué. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi certaines raisons que je dirais plus légitimes pour laisser partir son chien et aussi au-delà des refuges. Mais parfois, on a des individus qui nous écrivent et qui communiquent avec la Fondation Les Chiens Togo qui disent « Mais pour telle raison, moi, je ne peux plus m'occuper de mon animal. Est-ce que vous pourriez l'évaluer et peut-être le prendre? Puis je serais un peu moins peinée s'il pouvait devenir Chien Togo. »
Donc, à ce moment-là, plutôt que passer déjà par le refuge, qui est une forme quand même de stress, il va tout de suite être évalué pour être un chien d'assistance ou d'intervention.
Exactement, c'est arrivé. Il y a plein de circonstances. Il peut avoir, par exemple, la naissance d'un enfant qui, 3 ans plus tard, a des grosses réactions allergiques. Est-ce qu'on peut blâmer le parent de devoir relocaliser l'animal? Je ne pense pas.
Oui. Et est-ce que c'est une initiative que vous souhaitez multiplier? Est-ce que c'est un appel qu'on peut faire aux gens? Est-ce que c'est une direction vers laquelle vous voulez prendre qu'on vous appelle directement?
Bien, c'est sûr que l'option existe, mais il faut comprendre que les chiens Togo répondent à deux besoins de société que moi, comme fondatrice, j'aimerais mieux qu'ils n'existent pas.
C'est-à-dire c'est le cas de...
Oui, s'il n'y avait plus d'abandon animal, je serais bien contente, comme s'il n'y avait plus de stress post-traumatique aussi. Donc, voilà. Mais il est possible de nous appeler directement, nous envoyer un courriel si la personne ne peut plus s'occuper de son animal, effectivement. Mais je n'encouragerai pas un abandon massif. Là.
Non, bien sûr, bien sûr. Puis je crois même que vous faites certaines interventions au niveau de l'adoption responsable aussi.
Oui, c'est très important. C'est un enjeu qui nous tient vraiment très à cœur. On a notamment comme président Jean Lessard, qui a animé longtemps l'émission On s'aime en chien, et le président de notre conseil d'administration. On a plusieurs personnes là, dans l'équipe Les Chiens Togo pour qui, comme je disais tout à l'heure, là, le bien-être d'un animal et l'adoption responsable sont vraiment là, des valeurs excessivement importantes.
Et dites-moi, Noémie, en 10 ans d'existence, combien de personnes vous avez aidé, ou plutôt, je dirais, de chiens, parce que j'imagine que, surtout pour les chiens d'assistance, il y a la famille qui est autour, donc ça doit être difficile d'évaluer le nombre de personnes aidées, parce que c'est peut-être le policier, la policière, le militaire, mais aussi sa famille.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a aidé vraiment des centaines et des centaines de chiens et d'humains. Pas nécessairement aussi facile que de dire, ben, un chien, un humain qui est accompagné par ce chien-là, parce que, comme vous le nommez, ben, il y a plusieurs chiens qui sont passés par notre programme, qui n'ont pas été retenus comme chiens Togo, mais qu'on a replacés, nous, dans des adoptions qui perdurent, on reçoit des nouvelles de la famille et tout ça. Donc, dans ces cas-ci, on peut dire, même si le chien n'est pas devenu chien d'assistance, ben, il est heureux, on l'a aidé. Puis pour ce qui est des humains, mais si on regarde justement Spiro qui est à la CETAM, je crois qu'il y a environ 500 employés à la CETAM. Donc, c'est difficile de calculer qui exactement a eu cet impact-là, mais on a certainement passé là, des centaines et des centaines.
Donc, quel est son emploi du temps à Spiro au quotidien?
Bien, ça va vraiment être selon les besoins du milieu. C'est sûr qu'il est là, il est présent à tous les jours dans la caserne, dans le par exemple à la cafétéria quand c'est l'heure de manger, comme je le disais, pour avoir un impact au niveau de l'environnement, hein, parce que juste le fait d'avoir cette grosse face de chien contente-là, ben oui,
c'est
ça
quelle
fait
race,
bien. Oui, on observe la tension qui diminue. On sent là, que c'est moins... on peut, par exemple, sortir, jouer avec lui, jouer à la balle, le promener, etc. Sinon, dans d'autres cas, ben, ça va être vraiment là, des interventions directement avec un employé.
Et qui s'en occupe le soir? Il dort où, Spiro?
Bien, ça, c'est très important pour notre organisme. Le chien n'est pas dans l'établissement. Là. C'est pas, il faut vraiment qu'il soit associé à un humain, qui est son humain pour la vie, qui est son manieur. Dans ce cas-ci, c'est son humain est Marc-Olivier Yale, qui est superviseur à la CETAM. Donc, c'est son chien, c'est son humain aussi. Donc, au-delà d'être chien ou d'intervention et même chien d'assistance, nous, on dit toujours, le chien doit aussi être simplement un chien.
Oui.
Puis on ne doit pas le perdre de vue parce que c'est important, il a besoin de jouer, il a ses propres besoins à lui aussi. Donc oui, il peut nous aider, mais en retour, on doit s'assurer aussi qu'il a une belle vie, cet animal.
Par curiosité, de quelle race il est, Spiro?
C'est-à-dire que nos chiens, on n'a absolument aucune idée de quelle race ils sont dans la grosse majorité du temps parce que selon leur provenance d'un chien Togo à l'autre, comme je l'ai expliqué, dans les refuges, quand ils proviennent de refuges, ben, on ne peut pas retracer là, toutes les origines génétiques. Et même si un chien a physiquement l'air de telle race, ben, si on faisait vraiment une évaluation là, de l'ADN de cette génétique, on pourrait se rendre compte qu'il est extrêmement loin de cette race-là finalement, parce que c'est qu'un petit pourcentage. Donc, pour nous, ça fait pas de sens de parler de race et aussi parce qu'une fois qu'un chien a passé à travers tous nos protocoles d'évaluation qui sont vraiment très exhaustifs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bien pour nous, le chien est qualifié puis c'est un chien Togo. La race n'a plus d'importance si le chien se qualifie ou pas.
Quelle belle démarche inclusive! Mais donc, on ne peut pas en conclure qu'il y a certaines... On pourrait pas en conclure qu'il y a certaines races qui sont plus appropriées pour ce type de travail.
Non, je trouve ça très dangereux. Je crois ne pas me tromper qu'aux États-Unis, la race qui a le plus de morsures à son actif est le Labrador. Contrairement à ce qu'on pense, là, il y a certaines races pour qui on a des préjugés favorables. Les races sont des tendances comportementales. Donc, c'est sûr, par exemple, si on parle d'une race comme le Husky, ben normalement, des Huskies, vu leur origine, ils vont avoir un haut niveau d'énergie. Cela dit, on a déjà eu chez Togo un chien qui avait en lui du Husky et qui était une vraie patate. Donc, c'est vraiment, il faut voir le chien, nous en tout cas, on voit le chien comme l'individu avec un potentiel d'influence héréditaire, mais souvent, comme j'expliquais, on n'a pas de toute façon accès à ça. Donc, pour nous, c'est pas valide comme information.
Bon, mais je refais encore le même parallèle. C'est un peu comme les humains. On peut avoir des enjeux qu'on qualifierait de génétiques, puis ça se développe jamais. Donc...
Absolument.
Dites-moi, Noémie, comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider financièrement également?
La réponse est très plate, mais effectivement, ce qu'on a le plus besoin chez Togo, c'est l'aspect financier. Tous nos services sont offerts gratuitement. On n'a accès à aucune subvention gouvernementale parce que, oui, les animaux, c'est un domaine qui est moins reconnu. au niveau des prestances gouvernementales. Donc, la meilleure façon d'aider chez Togo, c'est de faire un don. Puis de nous soutenir financièrement.
Excellent. J'invite donc nos auditeurs intéressés à visiter votre site Internet et découvrir cette magnifique histoire. Merci beaucoup, Noémie.
Merci à vous.
Noémie Labérois, fondatrice et directrice générale des Chiens Togo.